Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Ce podcast est soutenu par NeoKids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe, pédagogie reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Les équipes encadrantes sont des professionnels qualifiés et formés à la pédagogie Montessori. NeoKids offre également une alimentation saine avec des repas exclusivement bio. Les crèches NeoKids sont équipées avec du mobilier et du matériel pédagogique Montessori, permettant à l'enfant de développer sa concentration et son intelligence. Merci à notre partenaire officiel pour son engagement. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Descleves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter un épisode partagé avec Sonia Krief. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous la présenter tellement Sonia est maintenant connue de tous dans le monde de la maternité. En effet, elle est la fondatrice de la méthode pour les nouveau-nés Thalasso Bain Bébé et la star sur les réseaux sociaux à travers son compte Instagram, Le Bain de Sonia, où elle y partage des vidéos très émouvantes de nouveau-nés prenant leur bain, mais également un contenu très riche sur la maternité. Cet épisode était passionnant. Nous avons parlé de son parcours en tant qu'auxiliaire de puériculture, de la création de sa méthode sur le bain des nourrissons, mais avant tout de toutes les belles valeurs qu'elle essaye de prodiguer via cette méthode unique. En effet, elle y allie relaxation, bienveillance, douceur, écoute du nouveau-né et surtout, écoute des parents. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Nous sommes très heureuses d'échanger avec vous aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de vous interviewer et nous sommes ravis que ça arrive aujourd'hui. Surtout qu'on a la chance de pouvoir enregistrer dans vos magnifiques locaux.
Oh
et
ouais.
Ça, c'est vraiment une grande chance. Alors avant qu'on démarre sur votre sujet de prédilection qui est la Thalasso Bain Bébé, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours professionnel et personnel et ce qui vous a amené vers les sujets de la maternité.
D'abord, je suis très heureuse de vous accueillir ici et vous montrer notre jolie école qu'on aime profondément. Alors, mon parcours professionnel, il faut savoir que je fais partie de ces enfants qui n'ont pas du tout aimé l'école. Je pourrais même dire détester. Alors, on considère ces enfants comme des mauvais élèves. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est juste pas un modèle qui correspond à certains enfants. Donc, je n'ai pas aimé ça. Il a fallu choisir, bien évidemment, une direction scolaire à la sortie de la troisième. Il s'est présenté quelques propositions, secrétariat, enfin des trucs qui ne me parlaient pas du tout. Et puis, il y a eu quelque chose avec les enfants, le sanitaire et social, le BEP sanitaire et social. Ben, j'ai dit, OK, on va faire ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Donc j'ai choisi de travailler auprès des enfants, de faire mon école d'auxiliaire de puériculture par la suite, sans savoir encore à ce moment-là pourquoi je prends cette direction. Mais en tous les cas, c'est celle-là. Je vais suivre plusieurs stages, puisqu'on a plusieurs stages. Il y a la crèche, la PMI, la pédiatrie et la maternité. C'est vraiment dans les services de maternité que je m'épanouis le plus et là où je suis vraiment heureuse. Donc, je fais mes stages en maternité et toute ma carrière professionnelle va se passer en maternité dès les premiers instants de vie, puisque j'étais aussi en salle de naissance, jusqu'à la sortie de la maternité. Et je saurais que bien plus tard, pourquoi mon cœur est allé plutôt vers la maternité. Je l'ai su il y a environ une dizaine d'années, c'est que toutes ces histoires de naissance me ramènent à ma propre histoire de naissance. Ça veut dire que j'ai certainement vécu un choc bébé à ma naissance qui aura guidé mon choix professionnel et qui m'amène aujourd'hui à vraiment soutenir les parents et prendre la parole pour les bébés. J'ai vraiment l'impression que j'ai cette mission de parler pour eux et d'expliquer leurs sensations, leurs émotions, leurs peurs et ce qu'ils attendent de leurs parents, de tous les gens qui vont l'entourer, ce qu'ils attendent comme accueil.
Et il me semble aussi que vous avez fait évoluer votre méthode à travers le temps, grâce notamment à des rencontres. Je me souviens bien, vous avez rencontré une sage-femme qui a eu un rôle déterminant dans votre approche avec les nouveau-nés.
Oui, j'ai eu la chance d'assister à une naissance hyper physiologique. Comme je pense, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse accoucher de cette manière. Une histoire, j'ai envie de dire, comme une histoire, on pourrait dire comme dans un film. Les films, on se dit, c'est jamais la réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais pour cette naissance, j'ai vraiment assisté à ça. J'ai participé au bien-être de la maman, mais j'ai surtout pu voir à quel point on peut faire confiance à la femme, à quel point on peut avoir du respect pour ce bébé, à quel point ce moment de la naissance est quelque chose de magnifique. Pas de médicalisation, tout était fait dans le respect, presque le silence, presque l'obscurité, enfin un accueil tout en douceur de ce bébé et puis donner la toute puissance à la femme de pouvoir accoucher sans pratiquement l'aide de personne. Et ça a été un vrai électrochoc pour moi et une vraie remise en question de toutes mes pratiques. À la suite de ça, bien évidemment, quand on assiste à ça, on n'est plus la même après.
Et donc, à la suite de tout ça, vous avez créé votre méthode qui s'appelle Thalasso Bain Bébé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi elle consiste ?
En réalité, avant de créer une méthode qui s'appelle Thalasso Bain Bébé ou le bain de Sonia, je voulais juste, à la suite de cette naissance, avoir des gestes bien plus bienveillants, bien plus respectueux envers ce petit être-là, ce petit bonhomme. C'était prendre en compte ses pleurs qui veulent dire quelque chose, trouver des solutions, lui proposer différentes choses, mais ne plus accepter que ses pleurs fassent partie de ce moment du bain comme une évidence, c'est comme ça, un bébé ça pleure, point à la ligne. D'accord, ça pleure, mais qu'est-ce que tu fais en même temps pour lui quand il pleure ? Est-ce que tu es actrice ? Est-ce que tu es juste spectatrice ? C'est juste ça, je voulais rien créer de particulier au début. Ça a été juste ça et puis au fur et à mesure de ces différentes étapes, je me suis demandé Mais en réalité, si tu veux procurer du bien-être à ce bébé, si tu essayais de recréer ce milieu qu'il vient tout juste de quitter, est-ce qu'il ne serait pas heureux ? On sait tous que la naissance est quelque chose de bouleversant. Je n'aime pas le mot traumatisme parce que c'est ça crée vraiment de la douleur. Un bouleversement, c'est encore autre chose. Un bébé aussi bouleversé, d'autant de changements, de sensations, est-ce que si tu le remets un petit peu dans ces conditions, dans cette chaleur, dans cette immersion, dans cet enveloppement, dans ce bercement, est-ce qu'il ne serait pas heureux d'y retourner un petit peu et de revenir tranquillement à sa naissance en réalité? Ça s'est mis tranquillement en place comme ça. J'ai mis beaucoup de temps parce que je n'avais aucun objectif que celui d'être bienveillante avec les bébés, même si je pense ne pas avoir été malveillante, ou en tous les cas inconsciemment. Mais en tous les cas, je voulais vraiment leur apporter toute la douceur qu'ils méritent après des naissances qui sont bien plus médicalisées, bien plus interventionnistes, avec des appareils, avec des césariennes, avec du bruit, avec du froid et la lumière et plein de mains autour de lui. Donc juste reviens un petit peu, on va se rapprocher un petit peu de ce que tu connais. En principe, quand on a un bon souvenir, on aime bien le revivre. Donc j'ai essayé de leur faire revivre ce joli moment qui était leur vie intra-utérine.
Et donc il y a cette méthode qui a été créée et qui a été un super grand succès.
Oui, ça a été un grand succès, surtout à partir de ma vidéo sur les jumeaux. C'est vraiment à ce moment-là que ça a pris des proportions assez incroyables. J'ai pas tout compris, mais en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui il faut pas que je comprenne tout pour rester celle que je suis en réalité. Et ça me va très bien comme ça. Je sais qu'il se passe des choses autour de mon histoire, je sais que ça évolue, que je sais que c'est waouh, mais moi, être juste bien et donner du bonheur et voilà, tout ce qu'attendent les parents, ça me suffit. Voilà, je sais que c'est une histoire extraordinaire, mais je la vois pas comme ça.
Oui, oui, oui.
non. Je suis très terre à terre. Non, ça me va.
Concrètement, qu'est-ce qui change dans votre approche sur le bain du bébé par rapport à une méthode plus traditionnelle?
C'est toute cette confiance ce que ça apporte de différent. D'abord, je suis pas dans un bain d'hygiène. Je ne vais pas mettre un bébé dans l'eau pour le savonner, l'astiquer, le sécher, l'essorer, le ranger. Je vais être dans un vrai partage, une vraie communication du temps, de la lenteur, offrir à ce bébé tout l'espace dont il a besoin pour pouvoir exprimer, et par son corps et par ses bruits, pouvoir me raconter ses difficultés de naissance, ces stress de naissance, des difficultés d'accueil. Moi, je lui offre toute cette liberté. Alors, cette liberté va être peut-être beaucoup d'eau et l'espace de ma baignoire, mais en même temps, ça va être ma façon de le porter, de le tenir. Je le tiens très peu et je le porte très peu pour qu'il puisse bouger. Parce que c'est vrai que si on contraint un bébé et qu'il nous demande de pouvoir bouger pour se libérer de quelque chose, il ne peut pas. Donc moi, je vais lui donner l'espace, l'écouter, l'observer, me connecter à lui pour aller capter tous ces petits signaux qu'il m'envoie et qui sont si importants, si importants. Donc mon bain, c'est ça, c'est un bain d'émotion, de réparation, de libération. C'est un bain très important parce que quand on répare un bébé, un événement, quand on libère une émotion, on libère la maman en même temps, et quand les deux se sont libérés, le lien se retrouve encore plus renforcé entre deux et entre le papa. Hein. On n'oublie pas le papa, on parle beaucoup de la maman, mais le papa a une place très très importante. Donc, si on peut aider ce bébé, cette maman, à déposer des bagages un peu lourds liés à une grossesse ou une naissance, autant le faire assez rapidement plutôt que de se les traîner trop longtemps. Il suffit pas de grand chose.
Et vous parlez au bébé pendant le bain?
Je leur parle tout le temps.
Oui, c'est ça.
Je peux être très silencieuse et être juste dans l'émerveillement de se lâcher prise, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un bébé puisse se laisser aller à ce point. mais parfois je suis juste là en je ne le porte pas, je ne sais même pas, c'est tellement sensible ma façon de le porter que ça s'appelle même plus porter. Il est là à effleurer l'eau, c'est de la pesanteur, c'est assez incroyable en sensation. Donc je peux être juste émerveillée ou je peux être un vrai moulin à paroles parce que ce bébé a beaucoup de difficultés, qu'il a peur d'y retourner, qu'il a peur de ce contact de nouveau de l'eau sur son visage. Il va réagir, il va pas vouloir, il va pleurer, il va crier, il va se débattre. Donc ces bébés-là, il va falloir que je les contienne et que j'envoie tout ce que je peux de messages de sécurité et de confiance, parfois en lui expliquant sa difficulté si la maman et le papa me les ont racontés. Donc je vais le raconter et valoriser mes pleins et lui dire à quel point j'ai confiance en lui et à quel point il va pouvoir y arriver et que je l'accompagne. Alors il y a des bébés, ça va suffire, ils vont crier un bon coup et puis on va réussir à lâcher prise, ils ont raconté. Et il y a des bébés qui ont besoin juste de raconter une vraie souffrance. J'aurais proposé tout ce que j'avais dans ma boîte à outils, mais ces bébés, il faut juste les laisser pleurer, il faut les laisser raconter parce que quand je connais l'histoire qui s'est passée, je peux juste dire à ce bébé qu'il a raison. Qu'il a eu peur, qu'il a eu mal, qu'il a souffert, qu'il s'est certainement senti seul. Mais là, je suis là avec lui, je l'accompagne. Pleure, libère-toi, mais je suis là avec toi pour toi. Et c'est très important qu'il raconte aussi son histoire. Qu'on lui laisse cet espace et cette possibilité d'exprimer. Je vous assure que les bébés nous expriment leurs émotions. C'est perturbant parce que on n'imagine pas d'un petit chou de 48 cm et peut-être 2,8 kg. Un tout petit bout là comme ça qui peut avoir autant d'émotions et de peur. Ben j'ai envie de dire c'est pas juste. Tout seul, il peut pas solutionner ça tout seul. Il faut qu'en face de lui, il ait une personne qui soit à son écoute et qui l'observe pour pouvoir le soulager, vraiment.
Et les parents sont à côté de vous dans ce cas-là ?
Toujours, je ne fais jamais de bain s'il n'y a pas les parents, parce que bien évidemment, ce bain agit comme un courant électrique qui va aller en plein cœur. Vraiment, c'est vraiment pour le parent et le bébé, c'est de cœur à cœur. Moi, je suis la petite main qui va aider, qui va être un petit peu l'intermédiaire pour que tout le monde comprenne ce qu'il y a en train de se passer dans ce bain. Mais bien évidemment, je peux demander aux parents de mettre la main dans l'eau, de toucher le bébé. Si le lien est compliqué, bien évidemment, je vais l'inviter. Si un parent me dit « j'ai peur de le porter, de le tenir, de le baigner », je vais prendre ses mains dans les miennes et on va baigner ce bébé à quatre mains. Tout est possible. Dans mon bain, il n'y a pas de protocole, le seul, c'est la sécurité. Mais il n'y a pas de protocole, on doit faire comme ça, commencer par là et finir par là. Le seul protocole, c'est le bébé qui va me le donner. Il n'y a que lui qui va décider de ce que va être son bain.
Et ce qui est fort dans ce que vous transmettez également, c'est qu'il faut que les parents arrêtent de penser qu'il faut faire attention à ci, attention à cela et à culpabiliser.
En réalité, on crée cette ambiance de culpabilité, bien évidemment, parce qu'on est beaucoup dans les protocoles. On est beaucoup dans attention comment tu le couches, attention comment tu le baignes, attention comment il mange, attention comment tu le sors. Il y a trop de clignotants autour de cet enfant qui est juste un enfant en bonne santé, avec des parents en bonne santé, qui ont juste besoin d'entendre « vous connaissez votre bébé mieux que personne, faites-vous confiance, faites-lui confiance ». Je vous fais confiance, je sais que vous allez y arriver, vous allez peut-être à des moments chercher une solution, proposer des choses à votre bébé, ce sera peut-être pas tout de suite ce qu'il attendait comme proposition, vous allez vite comprendre que ce n'est pas ce qu'il attendait et vous allez recommencer et vous allez trouver et à chaque fois que vous trouvez, c'est une victoire. Donc juste leur laisser le temps de rencontrer cet enfant, mais en même temps leur donner les conditions et cette confiance qu'on a en eux, parce qu'ils vont y arriver. On est parents depuis la nuit des temps, Alors, il y a une donne qui change, c'est qu'avant, on vivait sous le même toit. Là, on vit plus sous le même toit. Il y a moins d'accompagnement. Mais à nous, les professionnels, de mettre ses parents en confiance et de parler un petit peu plus du bébé pendant les services en maternité, de parler un petit peu plus de la relation parent-bébé plutôt que de nous embêter avec des compresses qu'il faut tourner dans un sens ou dans un autre.
Ouais, c'est sûr, ça. Par rapport au cordon, par rapport à tout ça, le stress.
Ça va, quoi. Ça va, parce que si le cordon, on le soigne pas, l'important, c'est qu'il soit sec. Je fais confiance aux parents. Ils vont voir s'il a une mauvaise allure. Ils vont aller voir la PMI, le pédiatre. Mais en même temps, on est tellement à leur dire, il y a juste à le sécher ou désinfecter-le avec votre lait maternel, qu'à un moment, il faut qu'on lâche un peu les parents avec cette histoire de compresse. Allons lui parler de ce que peut ressentir un bébé quand on le laisse pleurer tout seul dans son lit. Enfin, ça, c'est important. Ça, c'est, mettons de l'émotion au cœur du soin. Je parle des bébés qui vont bien, bien évidemment. Je parle pas des prématurés 26 semaines où là, bien évidemment, il faut des protocoles qu'il faut suivre. Mais à un moment, rassurer même ses parents de bébés prématurés, à un moment, arrêter de les considérer comme des prématurés, arrêter de penser qu'ils vont être fragiles toute leur vie parce que on n'envoie pas les bons messages au bébé. On va créer la fragilité de ce bébé à force de penser qu'il est fragile. Donc, être passé derrière tous ces services-là, arrondir les angles et dire à vos parents, ben, écoutez, si on vous a fait sortir de l'hôpital, c'est que votre bébé va bien. Considérez-le comme n'importe quel bébé. Il a eu une vie de prématuré. Aujourd'hui, il n'est plus prématuré. C'est un bébé qui va bien. Donc, faites les choses comme un bébé qui est né à 41 semaines. Mais ils ont besoin de l'entendre, même si c'est évident, ils ont besoin de l'entendre. Et souvent d'un professionnel de santé. Alors, il y a du chemin.
Est-ce que vous auriez une anecdote assez forte à nous partager sur quelque chose qui s'est passé récemment avec un bébé et des parents? Alors, je pense qu'il doit vous en arriver tous les jours, mais est-ce que vous pourriez nous en raconter une récente?
La plus récente, c'est ces histoires de bébés césariennes. Alors ça peut être celle dont j'ai parlé dernièrement, mais ça peut être aussi une césarienne qui est très 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 mal vécue par la maman parce que elle avait un projet de naissance qu'elle a beaucoup trop verrouillé, alors que dans chaque projet de naissance, il faut toujours laisser une petite part à l'imprévu. On ne sait jamais ce qui peut se passer au dernier moment. Donc, laisser cette part à l'imprévu pour ne pas vivre cet imprévu comme une grosse déception et un échec avec culpabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, je dirais que c'était une césarienne qui, pour moi, était plutôt une césarienne qui s'est très bien passée médicalement. Mais pour elle, ça a été vraiment une très grosse déception et beaucoup de culpabilité. Et je baigne ce bébé. Ça a été très difficile de le baigner. C'est un bébé qui a eu beaucoup de mal à se détendre. C'est un bébé qui a eu besoin que je l'entoure beaucoup de mes bras. Je rentre mes bras entiers jusque au-dessus du coude pour pouvoir l'entourer et lui mettre tout cet enveloppement. Même l'enveloppement du linge n'est encore pas suffisant. Il a besoin d'être serré plus que ça. Et il va finir par se calmer. Et puis, je vais le sortir sur la table allongée. Et puis, il va me faire signe qu'il a envie, avec ses épaules, on sent qu'il est en train de ramper un petit peu. Donc, je l'invite. Moi, il me guide. Je l'observe. Je me dis, tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il est en train de ramper. Il est en train de bouger une épaule après l'autre. Je vais lui proposer d'avancer un petit peu comme il aurait avancé s'il était né par voie basse. Donc, il avance tranquillement avec juste ma main au bout de ses pieds pour lui donner un appui, comme il a l'appui dans le ventre de sa maman. Je ne le pousse pas. Je lui donne juste un appui et lui va avancer ses genoux, va avancer son corps, dégager une main. Je vais attendre qu'il dégage sa deuxième main et qu'il plonge sa tête et je vais demander à la maman de récupérer le bébé comme si elle avait accouché voix basse, c'est-à-dire sous les bras, remonter le bébé et le mettre contre elle. C'est ce qu'elle a fait et elle explose en sanglots. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment... C'est toute cette déception qu'elle a, qu'elle, qu'elle, qu'elle a laissé dans son cœur et dans ses tripes, mais des forts sanglots. Forcément, je la prends dans mes bras, je peux pas faire autrement. Et je me dis, mais c'est terrible, parce qu'en réalité, ce bébé a eu besoin d'être pris dans les bras, comme sa maman a eu besoin d'être serrée dans les bras. Ils ont eu exactement le même besoin d'être enveloppés. C'est vraiment ça, hein. Et le papa qui était là ce jour-là avait ses yeux qui se remplissaient de larmes parce qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait, pourquoi sa femme se mettait à pleurer aussi fort. Et donc, lui s'est mis à pleurer aussi. Je lui ai juste fait signe que tout va bien, qu'il ne s'inquiète pas. En partant d'ici, il m'a dit « Mais votre bain, c'est une vraie thérapie. En libérant le bébé, j'ai libéré la maman. Donc forcément, on améliore encore plus le lien. Même s'il était là, elle s'est soulagée d'émotions qui étaient là et qui l'étouffaient. Parce que pour pleurer aussi fort, c'est que l'émotion, elle est retenue. Donc là, elle a fait sauter le couvercle. Le bébé a fait sauter son couvercle. Il m'a dit ce que sa mère n'a pas du tout accepté de cette césarienne, donc il ne l'a pas accepté non plus, puisqu'ils ne font qu'un émotionnellement pendant un certain temps. Donc, ce refus et cette déception, il me l'a raconté dans le bain de la même manière. Et c'est assez impressionnant. C'est assez incroyable. De le raconter, c'est incroyable, mais d'y assister, c'est encore plus incroyable.
C'est ce que je me disais, c'est que vous devez, ça doit beaucoup aider au renforcement du lien
bien évidemment,
entre
bien évidemment,
la maman et le bébé.
Mais bien évidemment, quand on retient des émotions, quand on comprend pas pourquoi, quand on n'est pas préparé, c'est beaucoup de culpabilité. C'est déjà un bébé qui naît prématurément. Je n'ai pas été capable de le tenir jusqu'à 9 mois. Un bébé qui a souffert. Je n'ai pas été capable de pousser suffisamment bien. Il a eu les forceps et il est tout amoché. Donc c'est beaucoup de culpabilité pour la mère, mais terriblement. Et cette culpabilité, déjà, il faut qu'elle puisse la raconter. Moi, j'encourage sans arrêt les mères à raconter, à trouver quelqu'un à qui on peut raconter son histoire, à demander des explications au médecin si on n'a pas compris pourquoi on a pris telle ou telle décision. Quand on comprend, on accepte plus. Quand on ne comprend pas, on part avec son bagage et il devient de plus en plus lourd. Donc, se libérer de toutes ces questions si on ne comprend pas et se faire aider quand ça va encore plus loin, parce que des fois, ça va encore plus loin.
Et ça doit aider aussi pour éviter les dépressions, justement,
bien
des
évidemment,
mamans. Hein.
Bien ouais. évidemment. Hein, il faut comprendre, il faut accepter et se faire accompagner. Ne pas sortir de l'isolement, ne pas avoir honte de sujets qui peuvent encore paraître tabous, comme le burn-out parental, comme la dépression, comme ne pas aimer être enceinte, comme ne pas avoir le coup de foudre pour son bébé au premier regard. C'est vraiment libérer la parole sur des sujets qui sont restés encore très...
tabou.
Ouais, très tabou. Donc, libérons les paroles. C'est dès qu'on leur donne la possibilité de parler, mais ça parle tellement. Ça parle tellement. C'est ces bébés qu'on reconnaît pas forcément à la naissance parce qu'on a une anesthésie générale et qu'on n'a pas compris qui est ce petit être qui était dedans. Et quand je me réveille, j'ai un petit chose là dans un berceau. Et qu'on se dit, on lui dit c'est ton bébé, elle dit ah bah oui c'est mon bébé, mais en même temps je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Toi tu me dis que c'est mon bébé, mais en réalité je sais pas si c'est mon bébé. Et il suffit juste d'ouvrir cette discussion là sur un cas pour que toutes les femmes qui ont vécu la même chose vous disent merci parce que j'ai jamais osé le dire, mais moi pendant quelques heures je me suis vraiment demandé si c'était mon bébé. Et pouvoir raconter et se libérer de ce genre de choses. Même des années après, elle se souvient de cette question qu'elle s'était demandée, est-ce que c'était vraiment mon bébé, sauf qu'elle l'avait dit à personne. Et pouvoir libérer la parole sur même quelque chose de très ancien, eh ben, c'est super important. Vraiment, vraiment, il y va tellement du bien-être de tout le monde, du bébé, du parent, de la relation, de son rôle de parent, de tellement de choses. Et au bout du compte, de la confiance pour ce bébé, toute cette sécurité affective dont il va se charger pour la vie entière.
Et comment continuer ce travail du bain à la maison ?
En réalité, à partir du moment où on a switché dans sa tête, qu'on se dit « je vais donner un bain à mon bébé », non pas pour le laver, mais pour passer un moment avec lui, partager, le regarder, lui envoyer des tas de messages d'amour, ne pas être là dans un automatisme de bain tous les soirs, tous les deux soirs, qui doivent durer 3 minutes, qu'on doit savonner, qui va hurler à la sortie. C'est sensibiliser, en réalité, les professionnels et les parents aux pleurs du bébé, en réalité. Quand un bébé pleure, on s'arrête. On regarde ce qu'il a, on lui explique, on fait une pause tétée s'il a besoin, même enfermé dans sa serviette, même enveloppé dans sa serviette, il va pas avoir froid dans sa serviette. S'il est en train d'hurler à la sortie du bain, enveloppe-le dans sa serviette, fais une pause de 5 minutes au sein et tu verras qu'après, la suite se passe sans un pleur, sans un cri. Et c'est tellement bon que de pouvoir s'occuper d'un bébé sans pleurs. Et pour les parents qui se valorisent du coup dans « Waouh, aujourd'hui je l'ai baigné, il a pas pleuré une seule fois. Oh, aujourd'hui j'ai changé sa couche, il a pas du tout pleuré. » De ce qui peut nous paraître nous un rien du tout, pour un parent, à chaque fois que c'est réussi, c'est une victoire. Et ça, il faut vraiment qu'on en mesure l'importance.
Une culpabilité qui s'en va aussi.
Mais bien sûr, arrêtons de dire qu'il faut aller vite parce qu'un bébé a froid. C'est vrai que si tu le baignes la fenêtre grande ouverte et qu'il fait 3 degrés dehors, bien sûr qu'il a froid. Mais si ta chambre, si ta salle de bain est à 23, 24, qu'il est dans une serviette et qu'en plus tu l'allaites et qu'il est contre toi, mais il a pas froid. Donc c'est ça, c'est arrêter d'avoir peur de... Mais ça, c'est un boulot qui doit se faire en amont.
Puis peut-être aussi qu'elle se faire plus confiance aussi, que la
Mais
maman
se fasse
confiance.
Mais pour se faire confiance, il faut qu'on ait confiance en elle.
Voilà, exactement.
Voilà.
Se dire,
parce
tu
que,
peux te faire confiance.
Parce que la
fait.
Confiance, on le sait, hein, c'est quelque chose qui nous est instillé depuis qu'on est dans le ventre de nos mamans. Donc la confiance, combien on en a eu nous-mêmes pour en transmettre nous-mêmes à nos propres bébés. Donc voilà, ça fait aussi partie de cet accompagnement. Peut-être que cette confiance qu'il a manqué, parce que si elle manque de confiance, et quelque part, il a peut-être manqué de confiance enfant lui-même, ce parent. Donc ben allons-y, faisons-lui confiance et disons-lui, je te fais confiance, tu vas y arriver, tu vas trouver. Voilà, écoute-le, il est en train de te guider. Regarde ce qu'il est en train de te dire là.
Et parfois même vous accompagnez de musique vos
bains
également.
J'ai besoin de cette musique pour en réalité de me déconnecter du reste du monde et ne me connecter qu'à ce bébé, parce que parfois c'est tellement fin ce qu'il raconte que si je lève les yeux pour regarder je ne sais quoi ou si j'ai un bruit qui va, je vais sortir de là. J'ai besoin de rentrer en connexion avec ce bébé. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment en connexion. Souvent, on me dit, tu as quelque chose en plus. Je sais pas si j'ai quelque chose en plus.
Oui, c'est sûr.
Mais en tous les cas, je n'ai pas de suivi de formation ou de je ne sais quoi. En tous les cas, je n'ai pas travaillé pour. Peut-être qu'à force de, j'ai comme une énergie particulière avec ces bébés. À force de me le dire, je vais peut-être y croire. moi, je pense que ma propre histoire de bébé m'a guidée vers cette histoire-là et que cette souffrance qui m'est revenue en séance d'hypnose, je voudrais qu'aucun bébé ne la vive. Une maman prépare un projet d'accouchement, mais si on pouvait donner un petit crayon à un bébé, il écrirait aussi son projet d'accueil de bébé. Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie d'être accueillie? Donc, comme il peut pas le faire, on se met un petit moment dans une peau de bébé, se dire, tu sors de là, tu atterris là, qu'est-ce qui te ferait plaisir entre les deux? Pour passer de ce monde à ce monde-là, de la planète utérus à notre planète Terre, qu'est-ce qui pourrait adoucir ce voyage qui est le voyage le plus extraordinaire de toute notre vie? Donc, juste se mettre un petit peu à leur place en se disant que toutes les sensations que nous, on pourrait avoir chez le bébé, c'est décuplé par quand on a froid, il a très froid, quand on a peur, il a très peur, quand il y a beaucoup de lumière, il est ébloui. Tout est beaucoup plus pour un bébé que pour un adulte. Donc, c'est très violent.
Et tout ce que vous faites, vous arrivez à le transmettre dans votre école à des personnes qui arrivent après à faire le bain comme vous?
En tous les cas, je leur transmets un message à toutes ces élèves qui viennent nous voir, hein, que ce soit du bain ou que ce soit une autre formation. Cette école-là est vraiment faite pour faire prendre conscience. De toute façon, toutes ces personnes en ont conscience. Si elles viennent pousser la porte de l'école, c'est qu'elles ont compris tout ça, sauf que tout cet accompagnement et toute cette philosophie-là qui est de l'école, toute cette philosophie, on ne peut pas, de nos jours, les mettre en place en... dans ces établissements hospitaliers.
C'est ça que j'allais vous demander. C'est pas possible de le mettre en place.
C'est pas possible parce que on est pris par le temps, parce qu'on nous rajoute des tâches sans arrêt sur nos fiches de poste, parce que quand ça manque du personnel, on le remplace pas, parce que le rendement a pris la place sur l'humain. Donc toutes ces personnes qui viennent nous voir, qui viennent des milieux hospitaliers, qui sont en souffrance, en burn-out professionnel, parce que ce métier ne correspond plus du tout à ce pourquoi elles l'ont choisi au tout début du commencement. C'est des métiers de vocation, ce sont des métiers de l'humain, ce sont des métiers d'accompagnement, de bienveillance, d'empathie. Et on nous donne plus la possibilité de travailler comme ça dans les services.
Comment elles font alors pour pratiquer ce que vous leur apprenez?
Soit elles vont continuer leur activité de salariée là où elles travaillent et elles vont créer une petite entreprise à côté pour avoir cette bouffée d'oxygène et cet épanouissement qu'on n'a plus dans ces services de maternité ou de pédiatrie ou de néonat. On est là, on est des automates, on a 10 minutes par chambre, on a des protocoles et on n'a plus d'humains en réalité. Donc elles vont créer leur petite entreprise, se lancer, avoir une vraie bouffée d'oxygène où elles sont heureuses, où elles n'ont de compte à rendre à personne. Elles passent le temps qu'elles veulent, elles ont cette liberté d'accompagner comme elles en ont envie et surtout comme les parents en ont besoin. C'est une demande, c'est vraiment un problème sociétal, cette histoire d'isolement et de manque d'accompagnement. Donc, elles vont créer cette petite entreprise ou alors elles vont carrément quitter le milieu hospitalier, tout ce système de santé et se lancer dans une vraie entreprise d'accompagnement parental où elles vont proposer du massage de la femme enceinte jusqu'à la diversification alimentaire. C'est comme si elles avaient une référente qui va être leur accompagnante en parentalité et en périnatalité même. Et puis, j'ai une question de portage, et ben je sais qui m'adresser. À partir du moment où la confiance est installée entre l'accompagnante et la future maman et la maman, ben ça devient une référente, comme ça pourrait être une amie, une sœur, une mère. Voilà, dans beaucoup de pays, le métier de doula existe. En France, il existe, mais alors on lui met des bâtons dans les roues comme c'est pas possible. On a peur que ces doulas prennent la place de je ne sais pas qui, alors qu'ils ne prennent la place de personne parce qu'elles ne sont pas du milieu médical. Elles sont juste la personne de confiance, la personne qu'on va appeler quand on va pas bien, la personne qui va venir te tenir la main si tu as mal. Enfin, c'est tout ça une doula. C'est comme nous, des accompagnantes. Au Canada, on appelle ça des accompagnantes à la naissance. Ben, elles sont là à la naissance, elles sont la main, elles vont venir masser le dos si elle a mal au dos pendant des contractions. Tout est dans l'accompagnement et dans l'écoute. Et il n'y a pas. Donc, on crée ici un métier quelque chose qui deviendra, j'espère, un jour un métier reconnu. C'est l'accompagnante à la parentalité. C'est un vrai besoin, puisqu'on est dans cette tout ce qu'on est en train de raconter sur les 1000 jours avec Boris Cyrulnik. Il y a un vrai besoin. Les congés sont trop courts, les mamans vont mal. Il y a de plus en plus de dépression du postpartum. Il y a de plus en plus d'isolement. Il faut remédier à ça et on espère que toutes ces personnes conformes, non seulement elles s'épanouissent professionnellement et forcément personnellement, ça prend beaucoup de place la profession dans nos vies, hein. Donc elles s'épanouissent mais à merveille et elles sont les petites fées qui manquent tout autour de nos jeunes mamans. C'est passionnant et c'est tellement touchant parce que parfois il suffit juste une heure et demie passée avec une maman qui arrive et qui va pas bien et qui va repartir mais tellement mieux. Et tellement mieux, il suffit pas grand chose, mais il y a pas le pas grand chose.
Mais ouais. Non, il y a pas ça. C'est ça. Ah, incroyable.
C'est passionnant parce que chaque quête qu'on a pu fournir nous fait tellement de bien à nous. Ben on est heureuse d'avoir pu apporter ce soulagement, cette écoute et de voir les parents et le bébé repartir allégée émotionnellement, rassurée par 2-3 conseils, mais 3 fois rien parce qu'elle avait les réponses en réalité à ses questions. Faut juste lui dire, ah, tiens, dans ta question, il y a la réponse. Mais elle s'est pas entendue parler.
Bien sûr.
Est-ce que vous pensez que je dois, mais je pense que ce serait mieux si. En réalité, t'as la réponse. Sauf que tu n'oses pas l'essayer si on te donne pas l'autorisation de l'essayer. Et c'est ça où nous, on est important en tant que professionnels. C'est lui dire, fais-toi confiance, essaye. Si tu te trompes, c'est pas grave. Mais t'auras compris, bah, que ce pleur-là, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais ils ont peur, elles ont très peur, ces petites mères.
Ouais.
Mais elles sont tellement touchantes.
Bon, on arrive déjà à la fin, donc je vais vous poser une dernière question.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez nous donner, bon, vous avez partagé énormément de choses déjà, mais peut-être vos derniers conseils pour toutes les mamans qui nous écoutent et les papas qui s'apprêtent à avoir un nouveau-né ou qui viennent tout juste d'en accueillir un. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à leur donner?
Plus qu'un conseil, je voudrais déjà féliciter tous ces nouveaux papas là qui sont d'un soutien mais absolument indispensable auprès de la maman et du bébé, qui peuvent parfois avoir l'impression d'avoir juste des tâches ingrates dans les premiers moments de vie de leur bébé, parce qu'il faut remplir le frigo, parce que il faut passer l'aspirateur et faire un petit peu le ménage. Mais ce travail est absolument indispensable pour la récupération de la maman, pour la rencontre de la maman avec son bébé. Ça ne veut pas dire que le bébé va pas rencontrer le papa, mais c'est vrai que dans la mise en place d'un certain nombre de choses, et par exemple de l'allaitement, le soutien du papa est indispensable. La maman a besoin de voir dans les yeux de son amoureux qu'il est là, qu'il valorise sa petite chérie, qu'il lui dit c'est bien, qu'il lui dit accroche-toi, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, c'est super ce que tu fais. Comme la chérie qui va dire à son mari, ouah, t'as super bien, merci, t'as passé l'aspirateur, même s'il reste 3 miettes par terre, c'est pas grave. Il faut valoriser les uns et les autres. Et j'ai envie de dire, faites-vous confiance, la relation parent-bébé, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre. Parfois, il y a des coups de foudre, parfois, il faut le temps de se rencontrer, de se connaître et de se comprendre pour avoir une longue et belle histoire et de se respecter aussi. Donc, c'est tout ça, la parentalité. Parfois, c'est compliqué. Je sais que là, tout de suite, maintenant, pour toutes ces personnes qui passent des choses difficiles, des pleurs de bébé, des reflux, je sais que c'est difficile à entendre, mais ça passe. Tout passe. Accrochez-vous, faites-vous aider de temps en temps, préparez peut-être en amont votre postpartum, en écrivant quelque part, si j'ai besoin d'aide, je peux appeler ma voisine, mon amie et ma mère, par exemple. Essayez d'organiser un petit peu le postpartum, parce que le postpartum peut être assez perturbant aussi. Tout ça, ça se prévoit, tout ça, ça se discute. Et surtout, soyez heureux et soyez tolérantes et tolérants avec vous. Voilà, n'essayez pas d'être brillantissime et parfait. On s'en fout, votre bébé n'aime que vous, avec même avec vos erreurs. Il s'en fout, il sait qu'il est aimé, ce bébé, et le reste, c'est pas grave. Il a pas besoin de grand-chose, le bébé, il a besoin de l'essentiel, avoir chaud, manger et de l'amour. Ça va. Même s'il a pas de vêtements, vous le mettez contre sa mère, il a chaud. Donc, voyez, il a pas besoin, c'est pour vous dire que l'essentiel, c'est ça. C'est ça, la nourriture d'un bébé. Donc, faites-vous confiance.
Merci, merci, c'était magnifique.
Ah, oui. Ah bah merci à vous.
Ça donne des frissons. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.